Dimanche, bonne matinée à vous toutes et à vous tous. Jusqu'à 11h30, vous êtes bien évidemment sur les Voies du Paranormal avec Marc Menant. Bonjour Marc.
Bonjour Jackie, toujours aussi iré. La voix brillante pour vous, une voix chatoyante. La mienne sera un peu plus voilée ce matin, disons qu'elle est presque islamique. Et bon, on va essayer de faire avec. Ça fait partie des petits taraudages que la nature peut nous imposer. Mais la nature, il va en être question ce matin, puisque nous allons voyager. Nous allons en quelque sorte faire un détour par les civilisations et voir que celles qui ont longtemps été considérées comme mineures, dites primitives, sont riches d'enseignements pour nous autres et qu'elles connaissent peut-être même des éléments de connaissance que nous devons faire prospérer pour mieux apprivoiser des éléments qui nous permettraient d'être encore plus hommes ou peut-être devenir enfin hommes. Alors, nous avons un invité, c'est Jérémy Narby. Il a écrit un livre formidable qui s'appelle « Le serpent cosmique ». C'est aux éditions Terramania. Et Jérémy Narby est docteur en anthropologie. Et ce titre, vous l'avez obtenu à l'université de Stanford. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Alors bonjour, vous venez de Suisse.
Oui.
Et il y a quelques années, vous avez cherché, en quelque sorte, parce que vous aviez la curiosité bien aiguisée, à voir s'il n'y avait pas enseignement à trouver auprès de certaines tribus qui vivaient en Amazonie péruvienne, c'est ça?
Pas exactement. Ma raison pour aller en Amazonie péruvienne en 1984 était une motivation politique et économique dans le cadre d'une recherche d'anthropologie, parce que les grandes organisations du développement, genre Banque mondiale, étaient en train de pénétrer cette forêt et confisquer les territoires des peuples indigènes en disant que ces gens-là ne savaient pas utiliser leurs ressources rationnellement. Le développement à cette époque était défini comme couper la forêt et mettre des vaches dessus.
Ça continue, ça, hein? Il n'y a pas malheureusement de grande amélioration.
Maintenant, on appelle ça déboisement plutôt que développement.
D'accord.
Alors, le but de ma recherche était d'essayer d'argumenter contre cette politique-là de développement et de montrer que les peuples indigènes de la région n'étaient pas des obstacles au progrès venus des hommes de l'âge des cavernes, comme on disait, mais que c'était des gens qui utilisaient leurs ressources rationnellement. Et c'est pour ça que j'ai voulu vivre avec un peuple pendant 2 ans et consacrer mon étude anthropologique pour obtenir un doctorat en anthropologie à leur utilisation du milieu naturel. Alors c'est ce que j'ai fait,
mm-hmm.
Je suis allé sur place.
Et là, quelle surprise en quelque sorte.
Disons que c'était ce qui était surprenant effectivement, c'est que ces gens-là connaissaient toutes les plantes dans la forêt la plus diversifiée du monde. Il y a plus de 80 000 espèces de plantes différentes, donc il y a plus sur un seul hectare de forêt tropicale, il y a plus d'espèces d'arbres qu'il n'y a d'espèces d'arbres en Europe.
Mmh.
Donc, quand on se promène dans cette forêt, la diversité des espèces est éberluante. Et pourtant, ces gens avec qui je me promenais, chaque fois, on faisait des balades dans la forêt pour aller d'un endroit à l'autre. Et je leur posais des questions sur cette plante-ci ou cette plante-là. Ils les connaissaient toutes. Et il disait, cette plante-ci sert à guérir le mal de dos, celle-ci, on peut en faire une teinture, celle-ci guérit la diarrhée. Et chaque fois qu'il y avait la possibilité d'essayer ce qu'il disait, je le faisais pour constater que ça marchait.
Et la meilleure preuve, alors là, partons tout de suite sur une anecdote très personnelle. Vous souffriez du dos depuis l'âge de 17 ans et rien n'y faisait. Hein.
Alors j'étais un champion local de tennis et j'avais un service un peu tordu, ce qui fait que le dos, etc. Ça faisait 7 ans que j'avais essayé de trouver des remèdes chez les médecins de chez nous. Cortisone et choses comme ça, rien n'avait fonctionné. Et ces gens-là disaient, nous, on a une plante, tu bois une demi-tasse à la nouvelle lune, ça te transforme en caoutchouc pendant 48 heures, tu verras quelques images, et à part ça, ça guérit ton mal de dos.
Oui.
Alors, allons-y.
Attendons la prochaine pointe de lune.
Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai bu la tasse, et pendant 48 heures, j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre sans tomber par terre. C'était assez désagréable, j'ai eu très froid, j'ai transpiré pendant mes 11 heures, et finalement, le troisième jour, j'avais le dos comme neuf. C'était et ça ne pouvait pas être psychosomatique, je le savais, puisque je n'y croyais pas à la base. Je croyais que c'était une superstition des Indiens et que ça allait être simplement un petit exemple dans l'étude que je faisais à propos de la connaissance que ces gens avaient sur les plantes. Mais je me retrouvais avec un dos guéri, c'était merveilleux.
Est-il aujourd'hui dans un état flambant comme à l'époque?
Oui.
Donc il n'y a jamais eu de rechute?
Non.
Alors vous disiez, il y a des images, enfin il vous promettait des images. Est-ce que déjà là, vous êtes retrouvé dans un phénomène hallucinatoire?
Oui, mais c'était des images, c'était une immense colonne de lumière à travers le ciel, au coucher du soleil. Ça a duré 5 minutes sur une expérience de 48 heures. Donc c'est vraiment un hallucinogène mineur et on ne le prend pas pour les images. On considère cette plante-là travaille sur le corps. Bon. Mais face à des expériences comme ça, où je constatais que leur savoir était bien réel, la question s'imposait, comment est-ce que vous savez ce que vous savez sur les plantes?
Et alors, en particulier, vous citez dans votre ouvrage le cas du curare, hein, parce que le curare, c'est un élément déterminant pour eux lorsqu'ils vont à la chasse. Ça leur permet de paralyser le gibier et donc de l'atteindre sans que celui-ci ait à souffrir d'éléments destructeurs. Et pour autant, il est extrêmement compliqué parce qu'il contient 70 substances différentes, c'est ça?
Bon, pour être précis, oui. Il y a 72 types de curare différents,
oui.
en Amazonie. Et le curare, pour comprendre son importance, c'est avant qu'on ne comprenne que ce poison de chasse amazonien est un paralysant musculaire, dans les années 40, la médecine moderne n'avait pas moyen d'ouvrir le torse de quelqu'un et d'opérer sur les organes vitaux. Parce que pour ouvrir un torse, il faut pouvoir arrêter les muscles automatiques de la respiration. Donc, voilà la capacité, c'est le premier véritable paralysant musculaire. Et ces Indiens, au fond de la forêt, l'ont mis au point. Le curare utilisé en médecine occidentale est une combinaison de deux plantes précises, choisies sur 80 000 espèces différentes, et cuit ensemble pendant 3 jours et 3 nuits, au cours desquels la mixture émet des vapeurs mortelles. Donc celui qui serait simplement en train de combiner différentes plantes et qui s'aventurerait à respirer la mixture mourrait. Et quand on arrive au bout du processus, on a une pâte qui est inactive si on l'avale ou si on l'étale sur la peau et qui ne marche que si on l'injecte sous la peau.
Ah, donc ça paraît complètement invraisemblable que des gens qui n'aient aucune connaissance, qui sont, bon, utilisons le mot, même si ça peut être choquant, analphabètes, aient cette capacité à aller aussi loin dans une composition qui mériterait des travaux pendant des années chez nous.
Disons, ce que démontre la complexité de la préparation et le résultat qui est un produit dont l'utilisation n'est pas évidente, la combinaison de tout ça fait que ça ne peut pas vraiment être expliqué par une recherche aléatoire.
Mmh.
Et d'ailleurs, ces gens ne parlent pas d'une... Ils ne disent pas... ils ne répondent pas à la question comment est-ce que nous savons ce que nous savons sur les plantes. Ils ne disent pas, eh bien, nous nous sommes assis pendant des siècles et nous avons combiné les plantes qui passaient par là jusqu'à voir ce qui fonctionnait. Ce qu'ils disent, c'est que... Alors la réponse que j'ai trouvée invariablement à cette question, c'était nos chamans ou ayahuasqueros, tabaqueros, prennent leur mixture hallucinogène et dans leur vision, ils parlent avec les essences qui se trouvent à l'intérieur de tous les êtres, les plantes, les animaux, les êtres humains, les esprits ou les mères. Et ces entités-là communiquent avec eux dans ces états de transe.
C'est ce qu'on appelle les manikaris, c'est ça?
Alors les Maninkari en Ashaninka, qui est le peuple avec qui j'habitais, ça veut dire étymologiquement ceux qui sont cachés. Et la traduction courante serait les esprits.
Mmh. Alors ces esprits pour eux sont nichés partout, ça c'est la théorie animiste que l'on peut retrouver de façon planétaire.
Voilà.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment on n'entre pas en contact aussi facilement que ça. Eux, ils utilisent des plantes hallucinogènes, mais en d'autres endroits, il n'y a pas besoin de ça, c'est simplement la transe. Mais il semblerait que l'une des constantes, déjà, il faille être en état d'ascétisme, donc de jeûne, avant de pouvoir atteindre cet état de conscience modifié, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, que l'on parle en musique en quelque sorte.
Oui, ça c'est une constante qu'on trouve autour de la Terre. Le médium préféré par les chamans du monde pour parler avec les esprits dans la nature, puis les esprits parlent avec nous au niveau d'images dans la tête, mais nous ne pouvons pas parler avec eux de la même façon, mais ce que nous pouvons faire, c'est émettre des sons. Et les chamans utilisent essentiellement leur voix, mais aussi parfois des instruments, pour émettre des sons et communiquer par ce biais avec les esprits qui, eux aussi, émettent des sons. Au début, le chaman néophyte apprend le langage des esprits en les imitant, comme on apprend à imiter le son d'un oiseau qu'on serait en train de chasser, ou comme un enfant apprend à parler en imitant un adulte.
Alors, par exemple, cette musique, elle conduit à une sorte de langage universel, c'est cela que l'on pourrait retrouver d'un peuple à l'autre et qui aurait une constante ?
Alors, il y a malheureusement peu de recherches qui a été faites jusqu'à présent sur le langage des chamans, mais c'est effectivement ce qu'on trouve, une sorte de langage universel. Mircea Eliade en parle dans son livre sur le chamanisme paru il y a un demi-siècle. Et on trouve aussi pas seulement cette utilisation du son et du chant, mais aussi l'utilisation d'un langage densément métaphorique. C'est, on n'utilise jamais le mot pour désigner directement la chose. On désigne toujours une chose indirectement, mais avec une connexion métaphorique.
Par exemple ?
Par exemple, au lieu de dire anaconda, on dit hamac. Mm-hmm. Parce qu'un serpent anaconda peut être comparé au niveau de la forme à un hamac.
D'accord. Mais ça, c'est déjà une utilisation d'une civilisation, puisque le hamac dans la nature en tant que tel n'existe pas. Donc ça veut dire que le langage s'est créé lorsque l'homme avait déjà atteint un état de matérialisation.
Oui, disons, depuis, je crois que les humains utilisent le langage, ils sont déjà dans la culture. Bon, depuis quand est-ce que les humains ont des hamacs ? Voilà une bonne question, mais... les humains utilisent quand même un langage d'humain pour parler avec ses esprits.
Alors avec Jérémy Narby, dans un instant, nous allons continuer ce voyage au fin fond de l'Amazonie, mais ça sera aussi un voyage planétaire. Nous allons parler entre autres du mythe du serpent, d'ailleurs le titre de son livre, Le Serpent Cosmique. Et on s'apercevra que le serpent, il n'y a pas qu'Adam et Ève qui s'y soient intéressés.